Bonjour tout le monde, bienvenue à Innove et Créa. Aujourd'hui, notre invité, c'est Dominique Laflamme, qui est directrice générale du Lab École. Bienvenue, Dominique.
Merci beaucoup, Anne-Julie, de cette invitation.
Aujourd'hui, on va parler de ce magnifique projet de Lab École. Mais avant, je vais te poser la question racine, la question que je pose à tous mes invités, qui est, quand tu avais, je sais pas, 10, 11, 12 ans, qu'est-ce qui te fascinait? Qu'est-ce qui t'intriguait?
C'est pas une question facile, ça, Anne-Julie. Hein? Je le savais que tu allais la poser.
Tu commences tout le temps avec la question difficile.
Oui, mais en fait, c'est que je me suis remis dans cette époque de ces belles années et je me suis dit, qu'est-ce que je faisais? Et sais-tu ce que j'ai réalisé? J'ai réalisé que je faisais plein d'affaires et que je n'avais pas nécessairement une chose en particulier qui me faisait triper. Alors moi, j'essayais tous les sports, j'essayais toutes les formes d'art, j'ai essayé d'apprendre des langues, j'ai fait tout plein de choses et j'étais à peu près capable de faire un peu de tout, mais j'excellais pas dans rien. Mm-hmm. Alors, je pense qu'en réfléchissant à ça, je me suis dit, ben, clairement, c'était la petite moi qui est devenue la moi d'aujourd'hui, qui est une grande généraliste. Peut-être le fil conducteur dans tout ça, c'était vraiment le contact avec les gens. Alors, c'était vraiment d'être avec mes amis, d'être avec les autres, puis d'avoir du plaisir. Et si je regarde aujourd'hui ce que je fais, ben c'est pas mal ça.
Il y a derrière ça une grande curiosité, forcément.
Absolument.
C'est ça qui t'a guidé, c'est un petit peu ça que j'entends.
Là. Oui, absolument. Il n'y avait pas rien qui ne m'intéressait pas. Quand on me proposait d'embarquer dans quelque chose, je disais oui, j'étais là. Et puis, voilà.
Donc, tu as un beau parcours riche, du monde des affaires jusqu'à au communautaire, grande expérience dans le communautaire, mais c'est quelque chose qui vivait dans ta famille, ça, d'être curieux vers l'autre, de connaître d'autres situations, les contextes de vie d'autres types de personnes. Veux-tu nous expliquer un peu ce qui guide le fil conducteur qui te mène, en fait, à maintenant être à la direction générale du Lab École?
Mais moi, écoute, d'abord, je dois dire que j'ai eu vraiment beaucoup de chance dans ma vie. Là, je suis née dans un milieu assez privilégié, dans une famille unie, aimante, une famille aussi très ouverte. Hein. Mes parents me laissaient faire à peu près n'importe quoi. J'avais une grande sœur qui avait passé avant moi, qui avait tout brisé, les plafonds et tout. Alors, j'avais une grande liberté et j'avais une mère qui était à la maison, évidemment. Là, on est dans les années 60-70 et qui avait abandonné son travail quand elle s'était mariée, parce que c'est ça qu'on faisait à l'époque, en grande majorité. Il y avait des femmes d'exception, mais ma mère, elle, avait choisi d'arrêter de travailler. Mais pour s'occuper, elle faisait beaucoup de bénévolat dans différents endroits et m'amenait avec elle faire du bénévolat. Et je pense que ça a été vraiment ça qui a semé une graine en moi de dire, OK, t'as de la chance, t'es intéressée par plein d'affaires, t'aimes ça être en contact avec les gens. Alors, peut-être que tu pourrais t'impliquer un petit peu pour ajouter du bonheur dans la vie des gens. Et ça a toujours été un peu en background quand j'étais adolescente, évidemment, là, en train de me chercher, etc. Mais plus tard, quand j'ai eu des enfants, je me suis dit, OK, là, il faudrait peut-être que je m'implique un petit peu plus. Et c'est ce qui m'a amenée à m'impliquer au niveau de la Maison Dauphine. Alors, la Maison Dauphine, qui est un organisme communautaire qui vient en aide aux jeunes de la rue, on parle pas mal des gens poqués, là. C'est ceux qui ont vraiment coupé les liens avec la société, coupé les liens avec leur famille. Et peut-être mon premier contact avec une école différente, parce qu'il y avait l'école de la rue à l'époque, qui avait été fondée par Sœur Cécile Girard, qui donnait une deuxième chance à ces jeunes-là qui avaient tout abandonné, de reprendre là où ils avaient arrêté, à leur rythme, dans ces lieux, penser pour eux et penser avec eux pour reprendre donc leur cheminement et idéalement terminer. On parle ici de terminer le secondaire, là. Alors, 14 à 25 ans qui peuvent accumuler des crédits à leur rythme et de graduer. Donc, ça a été mon premier contact fort avec ce milieu-là. Et par la suite, j'ai continué à faire plein d'affaires différentes. Moi, je me dis, je fais 5, 7, 10 ans à chaque place, puis après ça, je change parce que j'ai envie d'aller avoir un impact sur d'autres genres de personnes et d'y mettre toute mon énergie.
C'est intéressant, fait que la boucle se boucle entre le concept, disons, de la maison Dauphine ou la philosophie derrière, puis d'arriver au Lab École. Qu'est-ce que c'est le Lab École? D'abord, c'est quand même un super projet porté par 3 fondateurs. Pierre Thibault, architecte, Ricardo Larrivée, Pierre Lavoie. Peux-tu nous expliquer comment on en est arrivé là? Pourquoi ils ont imaginé ça comme projet?
Je te dirais que là, on recule en 2017 et à l'époque, Pierre Thibault était à l'émission « Tout le monde en parle » pour présenter son livre « Ici la beauté rendait heureux » qu'il avait fait avec François Cardinal. Et il avait, lors de cette émission-là, mentionné un exemple qui était qu'il était retourné dans son école primaire 50 ans après et qu'il avait constaté que son école était exactement pareille comme elle était dans ces années-là. Et pourtant, la société dans les 50 dernières années a quand même changé pas mal. Et avec ça, ben, les besoins des jeunes, les besoins des enseignants, les besoins de bien des gens, besoins de la communauté aussi. Mm-hmm. Alors, à ce moment-là, Pierre Lavoie, lui, regardait l'émission et Pierre Lavoie qui, lui, faisait le tour des écoles depuis des années avec ses cubes énergie, avec le grand défi Pierre Lavoie, qui constatait, lui, que les jeunes ne bougent plus, mais que les lieux dans les écoles ne sont pas adaptés pour bouger, sont pas faits pour faire de l'activité physique, sont pas faits pour bouger. À ce moment-là, Pierre Lavoie a senti qu'il y avait peut-être une occasion, une opportunité d'approcher Pierre Thibault. Et ils ont fait les mêmes constats au niveau de l'alimentation, que Ricardo, après ça, s'est joint à eux en disant, lui aussi, dans le cadre de son métier, avait constaté qu'il n'y a pas de lieu pour manger à l'école. Moi, j'ai fait ce 50 ans-là, donc je le sais, il y a 50 ans, j'étais au primaire. Mm-hmm. Et on allait à l'école à 8 heures le matin, on retournait chez nous à 11 heures, 11 heures et quart, on mangeait à la maison, on retournait à 1 heure, on revenait à 3 heures. Alors, on passait 5 heures par jour à l'école. Aujourd'hui, les enfants arrivent des fois à 7 heures le matin et repartent à 6 heures le soir. Alors maintenant, l'école est devenue un milieu de vie. Et les besoins ont évolué à travers ça. Et les 3 fondateurs se sont dit, il y a vraiment quelque chose à faire pour modifier ou améliorer ces lieux physiques au service de la réussite éducative. Et comme dans tout projet, quand on veut qu'il marche, il y a certains ingrédients qui doivent être là aussi. Donc, c'est le fun d'avoir une bonne idée. Ça prend de la chance un petit peu. Donc, avec 3 personnalités publiques qui ont la chance d'avoir une voix, on avait une clé de succès là. Et il y avait aussi le contexte, c'est-à-dire que le parc immobilier scolaire au Québec est désuet. La majorité des écoles ont été construites dans les années 60, doivent être refaites. Il y a près de 50 % des écoles au Québec là, qui ont un taux de vétusté de mauvais à très mauvais.
Mais c'est une grosse statistique, ça.
Oui, oui. Alors, c'est un chantier titanesque qui est à faire par le ministère, par le gouvernement. Donc, il y avait aussi l'opportunité, c'est-à-dire pour les fondateurs de dire au ministère, il faut les refaire, ces écoles-là. Il faut investir des milliards de dollars. Donc, tant qu'à le faire, est-ce qu'on peut le faire mieux? Est-ce qu'on peut regarder comment on pourrait améliorer la conception de ces écoles-là? Donc, c'est comme ça qu'a débuté le projet. Il a été demandé au ministère de l'Éducation s'il serait intéressé à ce qu'il y ait une réflexion qui soit faite par une équipe multidisciplinaire pilotée par les 3 fondateurs. Et le ministère, à ce moment-là, a dit, bien sûr, on va vous entendre. Et même, on va aller au-delà de ça. On va vous donner une cohorte d'écoles à tester. Donc, plus loin qu'une réflexion, parce que le danger avec ces grandes réflexions-là, c'est qu'elles font l'objet d'un beau rapport qui reste sur une tablette. Mais là, on a dit, on va construire des écoles laboratoires pour tester ces nouvelles idées, ces recommandations-là, et prendre note et mesurer ces écoles-là pour voir qu'est-ce qui est le plus porteur. Donc, il y a eu ce mélange de voix qui se font entendre, d'opportunités, d'un contexte économique en plus. À l'époque, il y avait de l'argent qui allait être mis dans ça beaucoup, il y en a encore beaucoup. Et donc, une ouverture parce qu'il y avait cette chance d'avoir à refaire toutes ces écoles-là.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est à peine en 2023, là. Fait qu'on parle d'un timing extraordinaire qu'une personne soit en train de regarder l'entrevue d'une autre.
Exactement.
En 2017, fait que c'est... on connaît les systèmes, c'est pas facile de changer ces grands systèmes-là. Fait que c'est extrêmement rapide parce que pour les gens qui connaissent pas le projet du Love École, la première école a ouvert à la fin de l'été à Québec, l'école Stadacona. Donc, on est passé de « Ah, oh, ça serait dans le fun! » de faire ça à « Voici notre nouvelle école » en si peu de temps. C'est absolument extraordinaire. C'est la première chose que je vois. La deuxième que je trouve vraiment inspirante, c'est que ce soit à la base une réflexion multidisciplinaire, justement. On est dans l'holistique, là, de réfléchir à comment on bouge, comment on mange, comment on apprend, comment on vit, comment on se déplace dans un espace, comment on en profite. Puis l'autre chose que je vois qui est vraiment super, pour avoir vu qu'il y avait un atelier, l'école de mes rêves avec des écoles de cinquième année à Montréal. Fait qu'on est tourné vers l'utilisateur, vers l'usager, vers l'enfant. On l'inclut dans la réflexion. La mission, donc, même du Lab École, c'est quoi? Vous la définissez comment?
C'est vraiment, justement, exactement ce que tu dis. Donc, rassembler les meilleures expertises pour concevoir les écoles de demain. Donc, ce qu'on veut être, c'est vraiment un catalyseur d'innovation. Et puis, pour être ce catalyseur-là, ben, ça prend du monde autour de nous. Et comme tu viens de le dire, Anne-Julie, c'est tellement juste, puis j'aurais dû le mentionner au départ aussi comme clé du succès, ça prend des gens qui sont prêts aussi, qui n'attendent juste l'opportunité de parler, de s'exprimer. Donc, quand on a assis tous ces gens-là à la table, parce que c'est la première chose qu'on a fait, hein? Ni Ricardo, ni Pierre Lavoie, ni Pierre Thibault ne prétendent qu'ils savent comment refaire l'école de demain, là. Ils savent pas.
C'est ça.
Alors, la première étape, ça a été d'asseoir tous ces gens-là autour de la table. Et ces gens-là ont levé la main. Ils ont dit oui, 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 on veut être là, on veut être là. On en a des idées. Et c'est avec cette richesse-là qu'on réussit à créer des concepts qui répondent aux besoins des gens. Puis, c'est intéressant. Moi, avant d'être au Lab École, je connaissais pas du tout, je connaissais pas l'architecture. J'ai pas d'architecte dans mon groupe d'amis. Maintenant, j'en ai, mais j'en avais pas à l'époque. C'est pas un métier que je connaissais bien. Et j'ai été quand même surprise, mais agréablement surprise de voir à quel point ce sont des gens qui sont tournés vers les besoins. C'est vraiment des gens, c'est ça leur métier. Leur métier, c'est d'écouter ce que tu as besoin et de te le présenter et d'écouter les commentaires et de retourner à la table à dessin. Donc, c'était le contexte était parfait. Les enseignants avaient plein d'idées. Les gens des centres de services scolaires avaient plein d'idées. Les parents avaient plein d'idées. Les enfants ont toujours des idées. Il faut toujours bien leur donner l'occasion de s'exprimer. Quand on a travaillé sur la cour d'école, on est allé voir les enfants, on leur a dit « Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta cour? Qu'est-ce que tu voudrais avoir dans ta cour? » Puis c'est incroyable ce qu'ils voulaient. Ils voulaient des choses toutes simples, pas des choses très compliquées. Alors, c'est vraiment ça la mission du Lab École, c'est d'asseoir tout le monde autour de la table, de les écouter, de leur proposer des choses et de développer une vision, une mission pour éventuellement en arriver à des concepts d'école qui, en bout de ligne, vont favoriser la réussite éducative, parce que c'est ça qu'on veut en bout de ligne. C'est ça que tout le monde veut au milieu de l'éducation. Alors, on essaye d'y contribuer avec le Lab École.
Le premier Lab École, l'école Stadacona à Québec, a été inauguré à la fin du mois d'août 2022. Mais c'est pas la seule. C'est extraordinaire, là, la liste de projets qui s'en viennent. Est-ce que tu peux me parler de ces 5 autres écoles-là? Où seront-elles? Puis, d'où est venu le choix de la région dans laquelle elle se situe ou de le quartier dans lequel elle se situe?
Certainement. Alors, au départ, comme je disais, l'idée, c'était de pouvoir mettre en application les recommandations qu'on allait faire avec cette cohorte de 6 écoles-là. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faudrait essayer de tester une fourchette de projets complètement différents qui nous permettrait d'enrichir toute cette idée-là du concept d'école de demain. Complètement à l'inverse d'une école uniforme et d'un modèle uniforme, nous, ce qu'on voulait, c'était de dire, on va aller dans toutes les régions du Québec, si possible, essayer de réinventer un modèle qui serait ancré dans sa communauté, ancré dans son environnement.
Avec les besoins de l'environnement,
exactement,
de la communauté. Donc, c'est adapté au contexte.
Absolument. C'était ça l'idée. Parce qu'au départ, il y a toujours aussi cette réflexion de dire que l'école, comme je disais au début, devient un milieu de vie, peut devenir aussi potentiellement le cœur de la communauté. Donc, on fait souvent le parallèle avec l'église, le parvis de l'église, qui était l'endroit où les gens se rassemblaient, qu'on a mis de côté il y a quelques années. Et là, pour possiblement remplacer cet espace-là, mais on se disait l'école peut être complètement ancré dans cette communauté et devenir le cœur de la communauté. Le ministère nous a dit, vous pourriez avoir une cohorte d'école. Et là, ils sont allés demander au centre de service scolaire qui avait fait la demande pour avoir des nouvelles écoles ou des agrandissements, s'ils étaient intéressés à participer au projet Lab École. Il y avait deux critères pour pouvoir participer au projet. Avoir une équipe qui désirait de l'innovation, une équipe qui est intéressée évidemment par nos trois chantiers qui sont l'environnement physique, le mode de vie physiquement actif et l'alimentation. Et le deuxième critère était d'avoir un engagement de la communauté pour s'impliquer dans le projet, pour occuper les espaces, partager les espaces. Donc, au départ, le Lab École devait être au cœur de la communauté. Et là, on a demandé donc à tous les centres de services scolaires s'ils étaient intéressés à participer. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et à ce moment-là, le ministère et le Lab École ont ensemble déterminé quelle pourrait être la meilleure fourchette représentative de tout le Québec. Donc, ça a donné le résultat qu'on a une école anglophone, on a des écoles en milieu urbain, des écoles en banlieue de ville, des écoles en milieu complètement rural, nouvelle école, agrandissement. Donc, quand on regarde nos 6 écoles, elles sont complètement des modèles différents. Celle de Québec, qui est en milieu urbain, donc l'école à palier, qui est vraiment une école en hauteur avec cours sur les toits, qui est un modèle très particulier et très ancré dans sa communauté. Ensuite, on a les 3 écoles qui ouvrent cette année, sont Maskinongé, on a Saguenay et on a Shefford. 3, encore là, environnements complètement différents. Avec Saguenay qui dessert une clientèle un peu plus à problématiques particulières, une école qui est faite sous le modèle de petites maisonnées, une maisonnée par cycle qui sont reliées par un corridor vitré, alors un endroit de bienveillance qui est basé sur la méthode kangourou. Et ensuite, on a un projet comme Shefford qui est une espèce de nouvelle banlieue de Montréal où il y a pas d'école, c'est une banlieue une ville qui est en croissance exponentielle, mais il y a aucune école. Alors, avec la vue sur le mont Shefford, encore là, une école pavillonnaire très ouverte sur la nature. Et ensuite, on a Maskinongé, qui est dans un endroit plus agricole, maraîcher, où là, c'est un agrandissement. Donc, on a la petite école de village traditionnelle derrière laquelle on construit un agrandissement. Donc, 3 modèles complètement différents. Et l'année prochaine, on a Rimouski qui ouvre. Donc, Rimouski, un nouveau quartier résidentiel tout près de la ville, avec une grande école, avec une toiture très intéressante et encore là, ouverte sur la nature à l'extérieur. Et on a Gatineau, en fait, qui n'ouvrira pas l'année prochaine, Anne-Julie, parce que les appels d'offres sont en cours en ce moment. C'est un agrandissement. Et la première pelletée de terre va se faire, on croise les doigts, là, ce printemps, cet été, mais va probablement ouvrir seulement en 2025. Et Gatineau, qui est un lieu anglophone, donc, vous savez, qui sont encore sous la gouvernance, ce sont encore des commissions scolaires, avec un conseil d'administration élu, et avec des commissaires élus, plutôt. C'est pas la communauté qui est autour de l'école. Hein. Les systèmes anglophones font qu'ils desservent un grand espace géographique. Mmh. Donc, encore là, avec des besoins.
D'autres
réalités, etc.
Les concepts pour chacune de ces écoles-là, maintenant qu'on connaît la variété, la diversité des milieux qui servent, font l'objet de concours à ce moment-là d'architecture. C'est bien ça?
Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit... il y avait plusieurs objectifs au concours d'architecture. L'idée était d'abord de démontrer toute la créativité des boîtes d'architectes et des professionnels québécois, et de leur donner accès à faire des concepts d'école. Parce que la façon dont les appels d'offres sont faits, il y avait plusieurs critères qui faisaient que ces petites firmes-là qui avaient jamais fait d'école ne pouvaient pas appliquer sur ces projets-là. Donc, le concours d'architecture permettait à plusieurs firmes de démontrer leur créativité. Et du même coup, l'objectif était un petit peu de mettre à niveau l'architecture scolaire au Québec. Alors, en 2019, juste avant le lancement du concours d'architecture, on a publié notre publication « Penser l'école de demain », alors qui présentait différentes propositions architecturales qui étaient la source de bien des recherches et de travail qui avait été fait. Et à ce moment-là, toutes les firmes d'architecture qui étaient intéressées à participer au concours avaient notre document, pouvaient vraiment se plonger dans l'architecture scolaire aujourd'hui. Et ça a fait que tout ce niveau-là de connaissances a été vraiment haussé. Et quand on attendait les résultats, on attendait de savoir combien de personnes déposeraient des propositions. On avait peur, on parlait avec le ministère, puis on disait, qu'est-ce qu'on fait si personne dépose de proposition? Qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir l'air fou. Mais finalement, il y a eu 135 firmes d'architecture qui ont participé, qui ont déposé 160 propositions d'écoles. Alors, 160 modèles d'écoles différents basés sur nos travaux, sur leurs recherches, sur tout ce qui s'était déjà fait dans le passé. Donc, ça a été une révélation, ce concours d'architecture. Maintenant, il faut dire que c'était le premier concours d'architecture scolaire qui a été fait depuis les 50 dernières années. Wow, on voit beaucoup des concours d'architecture pour les bibliothèques, pour les musées, etc. Mais au niveau scolaire, ça s'était pas fait depuis 50 ans. Et ce qu'on a fait, nous, c'est qu'il y a 5 de nos 6 projets qui ont fait l'objet de concours d'architecture. Donc, le projet de Québec, qui a ouvert une année avant les autres, n'a pas fait l'objet, lui, du concours d'architecture. Les deux raisons principales, c'est que l'endroit où avait été choisi, où serait le Lab École, il y avait une école qui était déjà là, qui avait fermé dans les années 80 parce qu'il y avait plus de population autour. Hein. C'est fou comment les bassins de population se promènent, c'est tout à fait normal. Cette école-là, donc, qui avait été fermée, le centre de service scolaire ne savait pas si c'était mieux de la rénover et de l'agrandir ou de la déconstruire et de refaire une nouvelle école. Donc, ce questionnement-là se prête pas très bien à un concours d'architecture où les normes sont très, très régies, c'est très rigoureux. Alors, on s'est dit, mais peut-être que ça devrait pas faire l'objet d'un concours. Et du même coup, on s'est dit, on pourrait peut-être tester un autre modèle, un appel d'offres.
Ça devient prototype, ça devient…
Ouais. Puis un appel d'offres, pas seulement au plus bas soumissionnaire, mais avec aussi des critères de qualité qui sont demandés, etc. Donc, le concours d'architecture, évidemment, c'est un processus qui est très, très complexe. Ça a retardé un peu les projets, là. C'est pour ça que le Québec a ouvert avant les autres.
C'est dire que ce désir-là, qu'on en vienne à apprendre autrement, que les enfants apprennent autrement, c'est un appel qui a résonné chez tant de gens. Donc, il y avait vraiment quelque chose à faire là, une action à poser pour changer la donne, là.
Absolument. Puis, tu sais, ce qui a été aussi assez révélateur dès le départ, c'est que on s'est aperçu, au tout début, quand on a commencé le Lab École, on s'était dit qu'on s'occuperait seulement de l'environnement physique, on s'occuperait seulement des lieux. Puis que la pédagogie, c'était pas notre domaine. Il y avait les syndicats, il y avait beaucoup de controverses à ce moment-là. Puis là, on s'est dit, OK, on touche pas à la pédagogie. Mais quand on a assis les gens autour de la table, on leur a dit, on va penser avec vous les espaces. Ils ont dit, ouais, mais là, va falloir que vous restiez avec nous pour nous accompagner, pour que quand on va avoir créé les espaces dont on rêve, qu'on travaille ensemble pour bien les occuper, ces espaces-là, puis que vous nous aidiez à se les approprier, etc. Alors, on a dit, oui, c'est sûr qu'il faut faire ça ensemble. Alors, ça a été totalement naturel que l'environnement physique et la pédagogie, donc les lieux avec les gens qui vont les habiter, doivent être ensemble. Ça forme un tout. Il n'y a pas d'espace qui existe sans gens.
Les séparer, c'est des écosystèmes.
Non, ce sont des écosystèmes. Alors, cet accompagnement-là qu'on a fait avec eux au début pour définir la mission de leur école, leur programme architectural, etc., on continue de les accompagner encore. On continue de travailler même avec l'école de Stadacona qui est ouverte depuis septembre. On continue de travailler avec la direction de l'école et tout le monde ensemble pour partager les expériences et s'assurer que les lieux qu'on a mis à la disposition des gens sont ceux qui vont favoriser et le bien-être et la réussite des élèves, mais leur bien-être aussi comme personnel. Tiens, on le voit récemment, comment le personnel scolaire travaille dur, comment c'est difficile de la rétention de ces gens-là, c'est difficile d'aller recruter des nouvelles personnes. Il y a beaucoup de classes avec des élèves à problématiques, multi-problématiques. Donc, ces gens-là ont aussi besoin d'un environnement qui va favoriser leur bien-être comme accompagnateur.
Oui, c'est ça, c'est au bénéfice de tous, en fait. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, justement, l'école de Stadacona, parce que c'est toi, habitable, espace, collabo, gradin, cuisine, ouverte à la communauté, tu sais, c'est tellement enlevant.
Alors, l'école est évidemment bien ancrée dans sa communauté. On est dans un quartier quand même assez défavorisé, multiculturel. L'école est une école en palier. Donc, finalement, je disais au début qu'on hésitait entre déconstruire ou rénover et agrandir. Finalement, les deux scénarios ont été évalués par le Lab École avec le Centre de services scolaires et la conclusion, pour plein de raisons, ça a été la déconstruction avec une reconstruction neuve. Donc, c'est une construction qui est neuve, mais quand on la voit, on peut penser qu'elle a été là depuis toujours parce qu'elle est très ancrée dans son environnement. Nous, on a travaillé beaucoup sur les typologies des espaces. Donc, vous savez, on est habitué, nous, à l'école en bord. Donc, il y a un corridor avec des vestiaires puis des classes de chaque côté. Alors, nous, dans notre publication « Penser l'école de demain », quand on a été voir ailleurs un petit peu ce qui se faisait, on a découvert qu'il y avait plein d'autres typologies possibles. Alors, nous, on a proposé différentes typologies au centre de services scolaires et chacun a choisi sa ou ses typologies. Donc, dans l'école Stadacona, on a créé deux typologies. Il y a le corridor d'apprentissage. Dans les labs écoles, les vestiaires ne sont pas dans les corridors. Les vestiaires sont à l'entrée de l'école, dans un espace fait pour ça. Et après ça, l'enfant peut se promener sans souliers, avec ses souliers, mais il n'y a aucun mouillé, aucune botte dans le reste de l'école. Au premier cycle, il y a un corridor d'apprentissage. Donc, le corridor étant libéré de ses vestiaires est beaucoup plus large. On peut l'utiliser pour faire plein de trucs. Et il y a des classes qui sont jumelées à côté de ce corridor-là, et qui devient un débordement pour collaborer, faire du travail ensemble, en petits groupes, entre classes, etc. Donc, ça, c'est une première typologie qui est utilisée. Et ensuite, on a le cœur d'apprentissage, donc qui est une autre typologie où on a un espace de collaboration entre plusieurs classes. Donc, au cycle supérieur, on utilise ces espaces-là pour, encore une fois, l'enseignant ou des petits groupes qui veulent aller travailler ensemble dans ces espaces-là, ou encore là, des classes qui débordent l'une sur l'autre, des cycles qui travaillent ensemble, etc. Donc, il y a toute cette typologie-là qui est différente de ce qu'on voit à l'heure actuelle. Donc, espace de collaboration, très nouveau comme concept, qu'on voit quand même dans certaines écoles, là, même, tu sais, il y a plusieurs écoles nouvelles qui sont faites par le ministère en ce moment et qui ont ces espaces de collaboration-là. Mm-hmm. Il y a aussi tout l'aspect d'espace partagé. Donc, comme je disais au début, où on veut que la communauté fasse partie de l'école, fasse partie de cet écosystème-là, donc il y a des espaces qui sont partagés. Quels espaces peuvent être partagés? Évidemment, les espaces gymnases, aussi des espaces pour cuisiner et ce gradin qu'on a mis dans tous nos labs écoles qui devient un cœur dans plusieurs écoles de rencontres entre l'extérieur, la communauté et l'intérieur. Je passe tous les aspects physiques plus au niveau acoustique, luminosité, où ça, on le sait depuis longtemps que ça prend plus de luminosité dans nos écoles. On sait que l'acoustique peut être problématique dans les gymnases. Là, il y a des professeurs, des enseignants d'éducation physique qui deviennent sourds après les années, tellement les décibels sont élevés dans un gymnase. Toutes ces ambiances aussi sont des facteurs qui sont particuliers au lab école. Donc, les espaces de collaboration, les espaces partagés et évidemment tout l'extérieur qui se trouve à être le lien entre la communauté et l'école et qui est le lien entre la famille et l'école, etc. Donc, tout l'environnement extérieur et ses seuils entre les deux qui ont été repenser aussi. La cour d'école, alors, dans le cas de Québec, où évidemment l'espace autour de l'école est assez restreint, on a voulu tester des cours d'école sur les toitures, qui était quand même un bon test parce que, tu sais, dans les dernières années, on a été très, très, très axé sécurité de nos enfants. Et là, ben en hauteur, ça n'a pas de bon sens, c'est dangereux. Comment on va déneiger? Donc, tous ces aspects-là qui sont revenus assez rapidement. Puis nous, on a décidé qu'on allait le tester, puis que ça, ça pouvait se faire. Puis de la neige, ça se tape par des enfants, puis qu'une rampe, ça se met. Puis même, on peut jouer. Bon, évidemment, là, on joue pas au basket sur une toiture, là. mais il y a tellement d'activités qui peuvent se faire les toits. On a aussi une classe extérieure, donc la dernière toiture est une classe extérieure, donc où il y a un toit, mais il n'y a pas de mur, avec une vue absolument imprenable sur Québec, sur les montagnes, sur c'est assez exceptionnel.
Parce qu'on est tout près de la rivière, là, puis du parc linéaire de la Saint-Charles.
Oui, donc absolument.
Ce que je me demandais, c'est qu'il y a des réels impacts sur les enfants, sur leur comportement, sur leur capacité à apprendre, de vivre dans des lieux comme ça. C'est des choses qui ont été mesurées, qui sont palpables.
En fait, oui, mais il n'y a pas eu tant d'études qui ont démontré
encore.
Ça. Alors nous, dès le départ, on a dit au ministère, nous, on fait un laboratoire. On est lab école, mm-hmm. on est un laboratoire et il va falloir tester ce qu'on fait. Parce que on a beau aller chercher les meilleurs experts, avoir la meilleure volonté du monde, asseoir tout le monde autour de la table, rêver, après ça, avoir des obstacles puis s'ajuster. En bout de ligne, on prétend pas qu'on a fait l'école parfaite, là, puis qu'on est en train de faire l'école parfaite.
Bien sûr que non, ben oui.
Alors, on a dit, il faut absolument qu'on puisse mesurer ces impacts-là, ces retombées-là. Et là, on a commencé par faire une grande recension, à savoir quelles études avaient porté là-dessus. Et il y en a vraiment pas beaucoup. Ce lien-là entre le bâti, les espaces, les ambiances, sur la réussite éducative, parce qu'en bout de ligne, c'est ça qu'on veut, bien-être, puis réussite, ces études-là, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Et nous, on a décidé d'en mettre une sur place dès le départ, qui allait probablement être la première étude au Canada qui allait porter là-dessus. Et l'idée est vraiment de mesurer les élèves avant qu'ils entrent dans l'ab-école et après ça, les mesurer la première année qu'ils sont dans l'ab-école et de voir évidemment les différences. Pas facile de mesurer ces variables-là, ces facteurs-là, mais on a retenu un consortium de chercheurs qui est piloté par l'UQAM, mais on parle de 14 chercheurs et quelques experts qui viennent de 5 universités, dont 2 en Europe. Alors, ça va être une énorme étude qui va porter justement sur ces impacts-là et qui va nous permettre d'identifier quels éléments sont les plus porteurs pour la réussite éducative et quels sont peut-être moins porteurs.
Présentement, on s'adresse aux enfants du primaire.
Oui,
c'est ça.
Exactement.
Donc, première à sixième année, c'est ça?
Préscolaire, sixième année.
Je me demande si ces jeunes-là là, qui auront fait toute leur primaire dans ces écoles-là vont passer au secondaire. Est-ce qu'il y a le projet de faire des lab-écoles secondaires?
C'est une excellente question. Tu sais, nous, quand on a commencé, on n'avait pas... préciser qu'on ferait juste les écoles primaires, mais bon, ça a donné comme ça, puis finalement, on s'est dit, ouf, heureusement qu'on fait juste le primaire, parce que le secondaire, c'est complètement un autre monde.
OK.
Et c'est un questionnement qu'on a en ce moment, et c'est un questionnement que nos centres de services scolaires ont, parce que nos centres de services scolaires, eux, ils font l'école primaire avec nous, mais ils ont des écoles secondaires dans leur parc, puis ils se disent, Et c'est une réflexion qui, évidemment, préoccupe aussi le ministère de l'Éducation. Et on est en train de voir comment on pourrait travailler ensemble peut-être pour ça. Il y a certains de nos... parce qu'il y a plein d'écoles secondaires qui sont à refaire aussi et qui vont être faites dans les prochaines années. Il y a plusieurs de nos recommandations qui peuvent aussi être transposées au secondaire. Mais c'est sûr que de pouvoir travailler sur les écoles secondaires, ça serait vraiment intéressant. Je dois dire que le ministère, ils font quand même leur bout aussi de repenser leurs écoles avant de les faire. Là. Ils ont des nouveaux guides qui sont en place où ils repensent à ça. Mais quand on pense juste au volet alimentation, agriculture scolaire, là, nous, on sort une publication bientôt sur ce volet-là. Et il y a plein de trucs à faire au primaire, mais au secondaire, c'est sans fin là, ce qui peut être réalisé là, dans l'alimentation et l'agriculture scolaire dans un but de littératie alimentaire, mais aussi comme apprentissage de devenir des citoyens de demain. Là.
Je trouve ça le fun parce que, d'abord, ces enfants-là deviennent plus vieux, deviennent des ados.
Oui.
Puis, ils vont porter cette culture-là d'innovation, d'avoir appris différemment. C'est sûr que la culture change. On l'a dit, les programmes scolaires changent. Il y a des écoles qui ont des labs, ça va être un lab-école, qui ont des aires communes collaboratives. De façon générale, il y a une pensée qui change autour de comment mieux apprendre. Mais ce que je trouve super beau, c'est que ces écoles-là primaires, ces jeunes-là vont grandir avec la preuve de ce qui est possible, que tout peut être réinventé. Puis ça, je trouve ça extraordinaire. Je serais curieuse de les entendre dans 20 ans, disons, quand on parle d'études, qu'est-ce qu'ils vont porter, de quelle façon ça va se déployer dans la société parce qu'ils auront vécu ça. On semble quand même noter des effets positifs à avoir des dispositions comme ça, plus d'éclairage, moins de bruit.
C'est sûr.
C'est heureux, là.
Tu sais, on va mesurer les impacts, mais on sait qu'il va en avoir des impacts positifs, là. Tu sais, des fois, on dit l'environnement physique, ton environnement pourrait devenir un assistant enseignant quasiment, là. Tu sais, un outil additionnel à la disposition de l'enseignant pour pouvoir faire une pédagogie différente qui va être adaptée à la personne qui est en face de lui. Je me rappelle quand on était allé visiter Stadacona, juste quelques jours avant l'ouverture, les enseignants étaient dans les classes, mais les élèves étaient pas encore arrivé. Tu sais, il y a tout l'aspect pédagogie en aménagement flexible qui est très à la mode. Et là, on travaille, nous, sur le mobilier scolaire aussi, sur repenser ce mobilier-là parce que les espaces sont nouveaux, mais le mobilier, il peut pas être pareil. Et là, j'ai été allée dans la classe de maternelle, je pense, puis l'enseignante était dans sa classe. Puis là, je lui disais, bon, vous avez installé le mobilier comme ça, comment vous voyez ça? Puis là, elle a dit, ben je peux pas prendre aucune décision tant que j'ai pas vu qui va être en face de moi, là. Alors, quand je vais voir les élèves en face de moi, ben là, je vais pouvoir décider avec eux qu'est-ce qui est le mieux. Et puis,
on est en co-création.
Vraiment en co-création.
Avec les tout-petits.
Oui, avec les tout-petits. Et une des choses, tu disais, dans 15 ans, 20 ans, qu'est-ce qui va ressortir? Puis moi, j'entends toujours les jeunes, je lisais encore un commentaire récemment d'un enfant qui disait, « Merci de nous écouter. Continuez à nous écouter. » C'est vraiment ça qui nous anime à nous lever le matin, c'est qu'on se dit, on est en train de contribuer à donner une voix aux enfants qui n'en ont pas nécessairement eu, là, quand on a conçu les espaces. Tu sais, quand on regarde nos cours d'école asphaltés avec la clôture Frost autour puis un grand, grand stationnement, on se dit, OK, ça, c'est pour les enfants? S'il y a quelqu'un qui s'est arrêté, qui s'est mis à hauteur d'un enfant, puis qui s'est mis, qui a pris ses yeux pour regarder ça, puis alors ça, c'est une grande, grande satisfaction pour toute l'équipe ici, là.
Je termine toujours l'entrevue avec une réflexion sur l'avenir. Quel rêve, toi et ton équipe, vous portez autour du Lab École? Parce que c'est quand même tout récent, là, tout ça, là, c'est beau, là. Qu'est-ce que vous imaginez dans 5 ans, 10 ans?
Notre rêve, c'est que nos espaces continuent à évoluer et qu'ils continuent à répondre aux besoins des gens qui les habiteront à ce moment-là. On avait une question récemment d'un journaliste qui nous disait « Qu'est-ce qui va arriver si dans 10 ans, les méthodes pédagogiques ont complètement changé? » Puis, ben, on espère que nos espaces vont évoluer pour répondre à ces nouveaux besoins-là. C'est ça qu'on veut. Ce sont des laboratoires. Mmh. On veut continuer à ce qui évolue et on pense qu'en ayant eu tous les acteurs autour de la table au départ, ces projets-là, ils vont leur appartenir et ils vont avoir un sentiment de fierté et ils vont vouloir continuer de le faire évoluer. Je pense que je dirais que c'est ça parce que l'innovation, faut que ça ajoute de la valeur là à quelque chose. Hein? Mmh. Puis, alors, si on ajoute de la valeur qui dure un an, c'est pas de la valeur ça. Il faut que ce soit quelque chose, un modèle qui continue à évoluer et qui continue à être un facteur qui va contribuer à la réussite éducative, quelle que soit la façon à ce moment-là. Je le dirais comme ça.
Fait qu'il y aura toujours une veille, parce qu'on est centré justement sur l'utilisateur. Donc, le concept va évoluer avec ce que la société va devenir à ce moment-là.
Il faut. Tu sais, nous, en théorie, on a une fin de vie, le Lab École. Le Lab École est supposé se terminer avec l'ouverture de la dernière école. Mais ce qu'on veut, c'est pouvoir continuer justement à faire cette veille, continuer à collaborer avec les autorités, avec les gens du milieu, continuer à pouvoir faire évoluer ce modèle-là et peut-être proposer ce concept-là à d'autres fins, là, mais c'est vraiment l'idée de continuer ça.
Comme c'est inspirant! Merci, Dominique!
Merci beaucoup à toi, Angélie.
Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez pu identifier comment vous pouvez intégrer la créativité et l'innovation dans votre vie. Si vous avez envie de plonger ou d'en apprendre davantage, vous pouvez me contacter sur mon site web innovcrea.com. Un merci tout particulier à Millimétrique qui a composé mes thèmes musicaux et à très bientôt.